Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. De retour dans les studios de Radio Galère pour un éco-forum ce soir consacré à l'air marin. Bonsoir Florence, comment vas-tu ?
Très bien, je suis ravie de cette émission, Maurice. Ça va être une émission très riche.
Tu es content d'être là, dans les studios ?
Et toi encore plus ?
Et moi, je suis très ravi. En tout cas, on a un invité tout particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé d'un projet qui s'appelle les pirates du plastique.
Exact.
13 plages en 13 jours cet été, de Saussay à...
La Ciotat.
La Ciotat,
merci. Pour ramasser tous les déchets, de jour comme de nuit.
De jour comme de nuit. Et ce soir, on a le privilège d'inviter un rêveur, un entrepreneur,
un activiste,
Joël Paris. Bonsoir Joël, merci d'être parmi nous pour nous parler de ton projet.
Bonsoir et merci de m'accueillir.
Eh ben, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que tu vas réveiller en nous les rêves perdus. En tout cas, on est content. On va parler de voile, on va parler de traversée de la Méditerranée, on va parler de handicap, on va parler de un petit peu tout ça. Et puis, on va essayer de casser les barrières, les a priori, ouais, les préjugés. Et puis, on va essayer d'approfondir un petit peu plus d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a emmené à croire qu'il était possible de traverser la Méditerranée à la voile avec un équipage de non-voyants. Voilà, c'est un projet assez fou que tu as imaginé, en tout cas, qui t'a imaginé et qui va bientôt se réaliser. Ma question en moi personnelle, c'était... tu vis à Marseille aujourd'hui, mais ce projet, est-ce que c'est quelque chose qui a été semé il y a longtemps ou c'est quelque chose qui a mûri, en fait, qui a mis du temps à mûrir ? Comment ça a commencé, toute cette aventure ?
Déjà, tu as fait un superbe résumé et j'ai plus grand-chose à dire.
Alors, je fais parce que, en fait, tu vas voir qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis le début. D'accord. Et puis, il y en a d'autres qui vont prendre l'émission en cours.
Puis, donc, je sais qu'il y a encore plein de choses à dire.
Et je sais qu'on va parler tellement de choses en détail que j'essaie de faire un résumé au début de l'émission. Super. Et puis, petit à petit, on va détailler un petit peu les différentes étapes.
Génial.
Est-ce que tu veux te présenter ou
Je m'appelle Joël Paris. Alors, je dirais qu'à Marseille, j'ai un nom qui fait un peu sourire, mais c'est un nom d'origine irlandaise. Donc, je viens un peu de là-haut, mais j'habite Marseille depuis 20 ans. Le projet Rêve à perte de vue, en fait, c'est 15 ans de maturation ou de compréhension de 4 points qui sont pour moi importants. Mon acceptation pleine et entière de mon handicap, de ce que c'est qu'être malvoyant, donc avec tout ce que ça recèle d'ambition, d'humilité. Deux, mon sentiment profond qu'on s'occupe mal du handicap aujourd'hui. Aujourd'hui, l'handicap est regardé sous l'aspect fiscal, juridique, voire humaniste. Moi, je crois que ça fait rêver personne. Et moi, je suis persuadé qu'il faut en parler sur l'aspect de l'innovation et la performance.
Comme quoi, c'est un atout.
Exactement. Et le troisième point, ma volonté de ne pas être un simple passager de la planète. Puis après, ma passion pour la mer. Donc ça, c'est ça. En fait, c'est 15 ans de maturation.
Je pense que déjà, ces 4 points, on peut rentrer plus à l'intérieur, parce que voir l'handicap comme une chance et d'apporter un plus sur cette planète, c'est quand même extraordinaire. On n'a pas l'habitude. Il y a l'exemple d'un barreur qui est pour toi le meilleur barreur au monde.
Je ne dirais pas que c'est une chance, que c'est quand même une contrainte d'être handicapé. Mais en fait, une fois qu'on a compris cette contrainte-là, il faut aller au-delà du sujet. Et que moi, je suis persuadé que c'est aussi après une force. Parce que je pense que quand on est handicapé, il faut se battre tous les jours. Et on a un peu plus, je pense, de résilience et de pêche que la moyenne du vivant, quoi. Et donc, l'exemple que tu citais, Florence, c'est effectivement à bord de mon bateau. Donc, on va faire une tentative de record de Marseille à Carthage en Tunisie sur un bateau à voile pour casser, comme l'a très bien dit Mauril, les préjugés sur handicap, dire que c'est possible. Donc à bord du bateau, il y a un aveugle, un vrai aveugle, avec le chien à la canne, Olivier Brice. Et ben ce garçon, en fait, je l'ai croisé sur des gros bateaux de course, et ben c'est un des meilleurs barreurs au monde. C'est complètement fou de dire ça. Alors c'est pas lui qui sort le bateau du port, c'est pas lui qui fait les bouées, mais une fois qu'on est au large, on lui donne la barre, et ben lui, il sent mieux que quiconque l'assiette du bateau. En fait, l'angle que fait la mer, que fait le bateau par rapport à la mer, lui, il sent mieux que tout le monde, et donc le bateau, ben, il est plus rapide avec lui. Mais pourquoi ? Parce qu'il est aveugle, et donc ben, il est meilleur.
Qui a développé toutes ses sensations extérieures.
C'est ça.
Et c'est là qu'on voit que l'handicap peut être une force et qu'on fait développer toutes les forces extérieures.
L'idée, c'est de démontrer que ce qui se passe dans un bateau, donc l'exemple de Marseille-Carthage, bah, on peut le transférer à terre en entreprise, c'est ça le sujet. À terre partout, entreprise aussi partout, quoi.
Donc, ça fait 15 ans de maturation. Là, on arrive dans les... La gestation s'est passée, on arrive bientôt à, au départ. Donc, vous allez être 4... donc, une personne complètement aveugle et 3 autres personnes malvoyantes.
Elle sera avec le chien, avec le chien.
Non, le chien à bord, non, c'est compliqué. Compte pas, il comptera pas, il n'y aura pas le chien à bord. Parce que d'abord, le pauvre chien, il sera malade. Et c'est compliqué. Je dis ça en soufflant le mot, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Mais en fait, non, on sera effectivement 4 personnes, dont 3 malvoyants. Et le chien donc, restera à terre. Ouais, c'est clair.
D'accord. Donc 3 malvoyants et 1 non-voyant.
3 malvoyants et 1 valide.
Ah, et un valide.
Valide. Lui, ce sera le numéro 1. Et c'est vrai que c'est le monsieur qui s'occupe des voiles d'avant, en fait. Donc, lui, il faut qu'il. En fait, je vais être très clair, je pense qu'on aurait pu le faire, j'en suis persuadé. On aurait pu le faire avec 4 malvoyants. Mais déjà, c'est déjà un peu taré comme projet. Mais ça fait peur à beaucoup de gens. Donc, dans mon équipage, on a effectivement un valide. D'abord parce qu'il est bon. Et puis en plus, bah, il rassure tout le monde. Quoi. Parce que c'est vrai que ça fait peur un peu à beaucoup de gens qu'on parte comme ça. Quoi.
Est-ce que ça a déjà été fait, lui, traverser avec...
Non.
Quelle est la plus grande distance que vous connaissez en équipage invalide ?
Pas très loin. On a fait des tours dans la rade de Marseille. Mais je sais qu'en fait, on s'est tous navigué sur des supports différents, des bateaux différents. Donc, on sait ce que c'est que la mer, les 4. Donc, je suis pas inquiet. On va s'entraîner quelques jours auparavant. Mais ça, c'est pas un problème pour la création de l'équipage en tant que tel. L'osmo, ça va se faire forcément parce que je connais les personnes. Et c'est tous des belles personnes. Donc, j'ai aucune inquiétude là-dessus.
De toute façon, en général, toutes les personnes en régate se connaissent de la régate.
Exactement.
Ça se crée pas avant.
Ça, on va
tant
se rencontrer
avant,
bien sûr.
Quand on connaît les atouts de chaque personne, ça fonctionne. Ouais, c'est la mer qui crée les liens.
Exactement.
C'est sur le bateau qu'on apprend à se connaître.
Ouais.
Et puis les circonstances.
On va passer un peu de temps ensemble. On va passer. En fait, un record à la voile, on ne sait pas quand on part. En fait, ça va être la météo qui va dicter le départ. Le but, c'est de partir. En début de Mistral, donc on va avoir le maximum de vent possible, le vent par l'arrière, pour être le plus rapide possible. On va s'entraîner et on va être disponible 8-10 jours avant. Et donc on va passer les entraînements effectivement ensemble. Et dès qu'il y aura un fort Mistral, on partira.
D'accord, donc c'est vraiment, vous attendez le coup de Mistral qui va vous envoyer.
On va en prendre plein la figure pendant quelques jours, mais effectivement, on va partir dès qu'il y a du Mistral.
Extra. Alors, je fais juste une chose, je rappelle aux auditeurs qui seraient intéressés pour poser des questions à Joël, le numéro de l'antenne c'est le 04 91 08 28 10. N'hésitez pas, si vous avez vraiment des questions par rapport à cette aventure, les moyens, vous-même vous avez un handicap et c'est quelque chose qui vous intéresserait de faire de la voile par exemple, posez votre question et on est intéressé. Dans la préparation, Joël, tu nous disais que tu es tombé dans la voile assez jeune puisque tu as pratiqué l'optimiste qui est la première étape en tout cas pour apprendre à naviguer. C'était vraiment une chance de pouvoir faire l'optimiste avec ses handicaps.
Je crois que c'est un peu inconscient tout ça, mais effectivement, quand j'étais gamin, j'avais 7 ans, j'avais vu des enfants faire optimiste et moi, j'ai voulu faire comme eux. Alors au début, je sais que le mono ne voulait pas parce qu'un gamin miro, ça faisait peur à l'instit. Au mono, pardon. Je sais que ma maman a dû insister un peu lourdement et j'y suis arrivé. Et en fait, le sujet, c'est ça, c'est de démontrer toujours que c'est possible. Voilà.
Et au niveau de l'apprentissage, ça a été rapide hein, où il y a eu des...
Comme tout le monde, hein, le bateau, c'est un univers un peu...
C'est complètement... on est loin du confort, ça bouge de tous les côtés, il y a le vent, il y a là-bas, on ne bouge pas facilement, surtout dans
c'est
un optimisme, c'est compliqué.
Pardon.
Non, je disais, c'est qu'on ne peut pas bouger, donc c'est pas évident.
Ouais.
Est-ce que ça renforçait encore plus ta détermination de faire comme tout le monde et de pas te laisser cantonner, enfermé dans une case, comme on le dit souvent.
T'as tout dit, en fait, Maurice. C'est vrai que moi, gamin, j'ai toujours voulu faire comme tout le monde. Donc j'ai d'ailleurs fait de l'optimisme, du bateau, etc., etc. J'ai fait du ski. Et là, je raconte une petite anecdote, c'est quand j'étais môme, je jouais à cache-cache comme tous les gars. Et donc je me cachais à 2 mètres de toi, quoi. Et donc forcément, vous voyez, mais je comprenais pas qu'on puisse me voir à 2 mètres de toi, puisque moi je te voyais pas à 2 mètres.
Bien sûr.
Mais donc voilà, c'est ça en fait. Donc c'est la compréhension petit à petit que j'étais un peu différent, mais je voulais faire comme les autres. Et donc le bateau, bah, c'était normal pour moi.
C'était normal pour toi.
Voilà. Même si effectivement l'univers du bateau, ou même comme tout univers, l'univers scolaire, n'ont pas voulu de moi. Mais là, le but, c'est pas
de parler de moi. Mais t'as insisté, ce que tu me disais, c'est que t'as eu une éducation normale. T'as pas été dans une école spécialisée.
J'étais à l'école normale. Ça, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est ma maman qui se battait pour que j'aille, parce qu'elle trouvait que j'étais pas trop trop bête et que je pouvais aller à l'école normale. Et donc, elle trouvait que c'était mieux pour moi d'aller à l'école normale, publique, classique.
Et pour vous, et pour toi, c'était une chance?
Moi, je crois que c'est une chance.
Ça pour toute personne handicapée.
Moi, je crois, après, c'est mon sentiment. Après, chaque cas est différent, mais j'ai le sentiment que quand tu t'ouvres à la vie, c'est plus simple d'avancer. Mais parce que aussi, moi, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui sont battus pour que j'aille à l'école normale, même si l'école normale n'a pas toujours voulu moi. J'ai été viré de 3 écoles parce que les profs avaient peur, quoi. Ils étaient effrayés par cette différence-là, quoi. Mais ça m'a aussi permis, adulte, de ne pas lâcher le truc, quoi. Voilà.
Félicitations.
Et de sortir du système et de continuer
à créer son chemin.
Finalement.
C'est ça, ouais. Et donc, le projet Rêve à perte de vue, c'est vraiment, encore une fois, l'aboutissement de tout ça. C'est démontrer que c'est possible de casser les préjugés sur handicap et dire oui, c'est possible. Regardez, on va le faire.
Et donc, c'est pour septembre. Où on peut savoir, vu qu'on ne connaît pas exactement la date, où on peut vous suivre pour être là le jour du départ?
C'est gentil, Florence. On a un site.
Encouragez.
Ouais, on a un site qui s'appelle Rêve à perte de vue. Tout attaché, rêveaperte-de-vue.fr. Il y a toutes les infos, normalement, qui vont arriver dessus. On a même une cagnotte sur ce site, parce qu'on a, on a un peu besoin d'argent. Je suis désolé de revenir à des choses
très
matérielles,
mais sur ce point.
Enfin voilà quoi, on a pour l'instant on a un budget de 25 000 euros. On a un partenaire qui nous a donné 10 000 euros, donc en gros il nous manque 15 000 euros. Donc n'hésitez pas. C'est vrai que c'est compliqué de parler de cagnotte parce qu'on n'aime pas ça et moi le premier, c'est jamais simple. Mais moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faites un don de 10 euros, 15 euros, tout petit, peu importe, même 2 euros. Peu importe. Mais si on est 600 personnes à donner 20 euros, eh ben le budget est bouclé.
Voilà. Donc c'est sur Litchis.
Les tout petits dons, ne vous embêtez pas, sont toujours les bienvenus, mais ça fait un plaisir fou. Vous me donnez du moral, de l'envie de continuer, de la pêche, quoi. Voilà. Donc c'est sur Litchis, effectivement. On tape casser les préjugés sur le handicap, Marseille-Carthage, et ça marche. Oui, en l'occurrence, il y a aussi le lien sur le site. rêveaperte-de-vue.fr. Il y a un lien sur la cagnotte.
Voilà, on va le rappeler en tout cas à la fin de l'émission. Carthage, ça fait rêver. Il y en a qui ne connaissent peut-être pas. C'est dans quel pays, Carthage?
C'est en Tunisie. C'est à 800 km d'ici à peu près.
Est-ce que c'est de la ligne droite en partant direct
quasiment.
Au sud
quasiment, ouais. Quasiment. On va frôler un peu
la Sardaigne,
en bas de la Sardaigne. On sera un peu au large, on va passer au large, à l'ouest de la Corse, on va descendre, on va frôler la Sardaigne au sud-ouest, et après c'est tout droit. Donc quasiment tout droit.
Combien de jours il faut pour descendre avec un bon Mistral?
Un bon Mistral. Nous, on vise de faire 2 jours et 2 jours et demi. Si on met moins de 2 jours et demi, on sera super content.
Ça sera une belle performance.
Ouais. Je pense qu'on mettra 2 jours et demi, et moins de 2 jours et demi, vraiment, on sera content.
Ah, oh, c'est possible.
Ouais.
C'est dur à estimer, parce que du coup, vous avez...
Ça n'a jamais été fait. Alors, vous passez un record, mais c'est une première,
en fait. C'est une première en catégorie, effectivement. Une première avec des personnes handicapées, comme nous. Pour être très humble, les meilleurs marins du monde l'ont tenté, l'ont fait, l'ont battu. En l'occurrence, les meilleurs marins mettent 17 heures. Je crois que le record absolu, c'est en 17 heures. Bon, mais donc on a de la marge. Mais nous, encore une fois, ça s'est jamais fait comme ça.
Voilà. Après, il y a aussi les performances des bateaux, j'imagine. Et
là, bien sûr, c'est les catamarans ultra puissants.
Puis ça peut être aussi tomber sur un super bon jour aussi. Exactement. Il y a les qualités de mer qui comptent. Hein.
Ouais. Tout à fait.
Eux, ils partent, pour l'anecdote, eux, ils partent en fin de Mistral et pour rattraper le Mistral, tellement ils sont rapides.
D'accord.
Nous, on va partir au début du Mistral pour pas que le Mistral nous rattrape trop. Voilà, la différence est là.
C'était poussé par le vent.
Exactement.
Et puis, bah, c'est quand même bien de passer du temps sur l'eau. Ouais. En mer, donc si ça quitte 17h, c'est rapide. Quoi.
Ouais, c'est dommage. C'est trop rapide.
Il y a tant de préparation pour si peu de temps sur la mer.
Ouais. C'est ça.
Et donc vous partez. Est-ce que vous savez qui va faire quoi? Quel est un poste en particulier ou ça va se faire un petit peu dans les dernières semaines de préparation?
Ça va se faire, j'irais dire, globalement dans la dernière semaine de préparation. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde fera tout. C'est qu'en fait,
il n'y aura pas un skipper.
Il y aura un skipper, en l'occurrence, c'est moi. Mais on va tous barrer. Pour qu'on barre le mieux possible, il ne faut pas trop barrer longtemps. On va barrer par série de demi-heures. Parce qu'au bout d'une demi-heure, si on veut être bon barreur, c'est crevant. Donc il faut
ça demande beaucoup d'énergie au niveau de la concentration.
Beaucoup d'énergie, encore plus quand on ne voit pas grand-chose. Donc il faut qu'on se concentre. Donc on va barrer par série de demi-heures. Ça, c'est le premier point. Après, il y aura le réglage des voiles. Ça, une fois que donc il y aura toujours à régler les voiles, bien évidemment. Mais globalement, faut être lucide. On n'aura pas trop à régler les voiles parce que le vent est établi. On part comme ça à fond, quoi.
C'est du vent portant. Mmh. C'est
exactement. Tout à fait.
On est poussé par le vent.
Exactement. Mmh. Voilà. On est, c'est là où on est plus rapide. On aura
il
y le
pas
vent.
Trop à tirer des bords, comme
non,
on dit.
Non, non. Si on tire des bords, c'est qu'on est pas bien.
Il y a un problème météo.
Exactement.
C'est pas la bonne direction.
Météo. Donc, puis si on tire des bords, c'est qu'on est face au vent. En tout cas, le vent qui vient en face, et ça, c'est pas bien du tout pour nous, quoi. Donc, nous, on aura le vent par trois quarts arrière, et on ira le plus vite possible dans ces conditions-là, avec des belles vagues, pour les surfer un peu, quoi.
Donc, les surfer. Est-ce que, au niveau du bateau, c'est un bateau qui fait combien de mètres?
Alors, ça s'appelle un half tonner, en fait, c'est un bateau qui fait 9,20 m. En fait, c'est l'ancêtre des bateaux qui font le Figaro aujourd'hui. Aujourd'hui, la course du Figaro, c'est en monotypie, donc c'est tous les mêmes bateaux. Et jusque dans les années 90, avant, donc, il y avait des bateaux qui avaient tous la même jauge, mais ce n'étaient pas tous les mêmes bateaux. Ils avaient tous les mêmes surfaces, les mêmes coefficients, etc. etc. Mais c'est des bateaux différents. Et donc, ce bateau-là, il était conçu pour faire le Figaro en 85.
D'accord. Voilà. Donc, c'est quand même un bateau,
donc, c'est un bateau qui marche bien.
Régate, quoi.
Mais maintenant, il faut être lucide. Hein, il y a des bateaux qui vont beaucoup plus vite que lui. Quoi. Ça, c'est clair. Mais il marche
mais déjà
très bien.
Il est quand même orienté.
Il marche très
régate
bien. Et... il est, ouais, absolument.
Performance.
Vous allez avoir besoin d'outils supplémentaires avec l'handicap ou
oui.
Vous êtes complètement mobile, apte à utiliser un bateau classique?
Alors, on est apte à utiliser un bateau classique, mais on va s'aider. On va être aidé par des applications, en l'occurrence, qui vont nous dicter les angles par rapport au vent. C'est-à-dire que pour les deux barreurs qui seront aveugles totalement, ils savent barrer sans instrument, mais pour les aider, on va avoir les instruments qui vont rappeler les angles qu'on a par rapport à la mer. Ça sera une aide.
Ça sera en braille ou par
non, 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 ça sera oral. Oral.
D'accord, d'accord.
Ça sera du oral.
Extra. Et donc, c'est quelque chose d'automatisé.
Ouais, c'est une application qui s'appelle Sarah. Justement, un de mes équipiers est un des fondateurs de Sarah. Et donc, ça a pour but d'assister le barreur dans sa direction. Voilà. Mais il pourrait barrer sans rien.
Extra.
Mais donc, tant qu'à faire sur une longue distance, c'est plus sympa comme ça, quoi.
Donc il y a vraiment un côté innovation par rapport à ce que vous faites.
Création. Ouais.
Création et pourquoi pas découverte de solutions qui pourront en tout cas après aider les non-voyants ou malvoyants à faire du bateau dans un cadre un petit peu plus sécurisé.
Maurice, je pense que c'est un peu mon leitmotiv. Je pense que dès lors qu'il y a une contrainte et qui est ici le handicap, on est forcé d'innover.
Ouais. Ça, c'est une belle citation de Joël Paris, vraiment. C'est
que Florence aime bien, ouais. Qu'elle a noté sur son petit cahier.
Il faut innover.
Mais on n'a pas le choix.
On l'entendra.
On n'a pas le choix, c'est que contrainte égale innovation. Donc nous, on aura plein de contraintes à bord et que forcément, on va innover. On ne va pas changer le monde, hein. Mais on va essayer à chaque fois de trouver la solution parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, on va forcément innover. Donc pour l'instant, je ne sais pas, parce que je ne suis pas face aux contraintes. mais on va y découvrir les contraintes et on va devoir les dépasser. Et c'est ça, encore une fois, que je veux démontrer qu'avec ce projet-là, c'est que c'est possible, avec un handicap, d'avancer, de poursuivre et donc de casser les préjugés sur le handicap. Ça, c'est, pour moi, c'est essentiel.
Mais c'est superbe. Et est-ce que vous avez des projets après la course, du coup, donner cette impulsion?
Ouais. Oui, Florence. Pour nous, c'est une première étape.
Ouais.
Pour dire que c'est possible, déjà. Et puis après, on va faire ce qu'on appelle la Transat Jacques Vabre. C'est en novembre 2019. Cette fois-ci, ça ne sera pas avec ce bateau-là, parce qu'il sera trop petit, puis il n'a pas le droit d'aller si loin. Enfin, s'il a le droit, mais c'est ce qu'on va... ça n'a pas de sens. Donc, on a besoin d'un plus gros bateau, donc de plus d'argent, pour porter encore plus fortement le message dont je viens de parler. Et on va s'allier encore mieux avec notre institut, avec qui on a un partenariat. L'institut s'appelle l'IRSAM, I-R-S-A-M. L'IRSAM, c'est le plus gros institut de la région qui s'occupe des enfants sourds et aveugles de la région. Et donc, on est partenaire avec eux. Et on va porter ce projet avec eux pour que des mécènes puissent donner de l'argent pour ce projet-là.
Et puis pour inspirer ces enfants, justement, leur handicap n'est pas
un frein
à leur rêve, en tout cas, et qu'au contraire, tout est possible.
C'est ça. Le truc qui, moi, me tient à cœur, moi, Joël Paris, c'est de dire que moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon handicap. Et que ces enfants ont eu moins de chance que moi, et donc je veux leur redonner la chance que moi j'ai eue. Et pour moi, c'est important, et de leur dire, regardez, c'est possible, vous avez des rêves, mettez-les en application. Et ça, un truc, moi, qui m'anime aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas facile d'être malvoyant, c'est clair. Parfois, ça m'énerve profondément, et parfois, je suis abattu comme tout le monde, mais j'avance aussi. Cette volonté que j'ai, je veux dire à tous ces mômes-là que c'est possible de mettre en place ces projets et en mettre en branle ces projets et qu'il ne faut pas qu'ils lâchent. Et donc, voilà, je veux qu'on continue avec eux.
Extra.
C'est extra.
Ouais,
c'est inspirant, en tout cas. Moi, c'est fou parce que je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a... faire du bateau, c'est pas non plus accessible à tout le monde. Ça coûte cher, c'est un milieu
pas toujours.
Hostile. Non, mais il y a des milieux modestes à Marseille. Et c'est vrai que ça peut paraître loin comme rêve à aboutir, mais on a la chance d'être au bord de l'eau. On a des clubs de voile.
Ouais,
et donc,
c'est ça.
Ce qui est fou, c'est que tu vas au-delà, tu proposes vraiment quelque chose de faire la voile aux non-voyants et que c'est possible. Donc, c'est vraiment un double échelon, mais ça, c'est ce qui permet à chacun de s'identifier à toi, finalement, parce que on voit que si on a deux jambes, on peut tous aller faire de la voile et peut-être un jour faire une traversée, mais en tout cas, c'est déjà possible.
Je crois qu'on a la chance à Marseille d'avoir une rade incroyable. On est comme les enfants qui habitons la montagne et qui pouvons faire du ski facilement. La voile, c'est vrai que c'est un sport qui a une connotation de très riche, c'est vrai. Ça coûte beaucoup d'argent parfois. Mais on peut commencer à faire la voile dans plein de clubs. Il y a 4-5 clubs. Et objectivement, c'est possible avec je pense au CMV, Club Municipal de Voile, de faire de la voile pour vraiment pas cher. Il y a plein d'associations qui font ça très bien.
C'est bien que tu
pour pas
précises.
Cher. Ouais. Ouais, objectivement, c'est un truc, je pense qu'il faut que tout enfant à Marseille aille au moins une fois sur l'eau et sache que c'est que la mer, quoi.
Ouais. Et voient la mer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent même pas, ils ne sont jamais allés à la mer.
Je pense que c'est vraiment un endroit où, quand on est gamin, qu'on a des difficultés, qu'elles soient sociales, humaines, physiques, c'est compliqué d'avancer. Et la mer, ça, c'est un endroit qui est juste génial pour ça. C'est que ça vous remet en place et qu'on ne triche pas en bateau dans la mer et que c'est vraiment un endroit pour soi, à soi, rien que pour soi. Donc allez-y, quoi.
Allez-y.
Et
pour tout le monde. Et tu nous parlais de moments difficiles à bord d'un bateau, mais tu nous parlais aussi de moments de bonheur.
Ouais.
Et que finalement, c'est ce qu'on recherche à travers les difficultés, à travers les moments qui ne sont pas forcément faciles. Le milieu, ça bouge. On peut avoir le mal de mer, c'est inconfortable. Ouais. Mais y a, au milieu de tout ça, il y a des moments de bonheur. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Qu'est-ce que toi, vraiment, tu arrives à ressentir la mer, au milieu du chaos de ce milieu quand c'est au bateau?
La mer, je pense que c'est un résumé de la vie. Il y a des moments extraordinaires, puis des moments super compliqués et où on ne voudrait pas être là. Ça m'est arrivé plein de fois de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et un marin qui vous dit qu'il n'a jamais eu peur en bateau, eh ben moi, je ne monte pas avec lui, parce que c'est qu'il est inconscient. Donc oui, parfois, on a peur, et que le but, en tout cas, en mer, on n'a pas le choix, donc on maîtrise, on contrôle sa peur plus ou moins, on la comprend, et ça, c'est génial. Moi, c'est un endroit, je parle pour moi, qui m'a permis d'appréhender, de comprendre ses limites, et que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne triche pas en mer, qu'on est tel qu'on est, avec ses limites et ses ambitions.
Et alors, pourquoi on veut y retourner si,
Parce que c'est des moments de bonheur incroyables, parfois, en mer. C'est des moments d'abord de rencontre, j'allais dire. Quand on est en équipage, ça décuple les sensations. C'est-à-dire que tout devient... Enfin, les petites choses ont vraiment beaucoup de sens, elles sont extraordinaires. Manger en bateau, c'est génial. C'est aller dormir en bateau, c'est génial.
Et pourtant, c'est pas du 4 étoiles.
Et voilà.
Pourtant, c'est, ouais,
tout
c'est
est amplifié. Donc la vie prend.
On apprécie la moindre chose.
Tout a du sens et beaucoup plus de sens. Les relations humaines qu'on va établir à bord d'un bateau, c'est génial. Après, ça peut, on peut se détester, mais n'empêche, ça décuple tout. Et donc ça, c'est vraiment un endroit. Les amis, les rencontres qu'on fait en bateau, c'est pas toujours les amis avec qui je pars en bateau, mais c'est les gens avec qui j'aurais forcément toute ma vie une histoire. Et ça, c'est
que, les liens sont forts, ça tisse les liens vraiment
quand
forts.
Je vais être un peu trivial, mais quand t'as aidé ou quand t'as vomi à côté d'un copain, de quelqu'un, c'est forcément un copain là, jusqu'à la fin de tes jours, quoi. C'est dégueulasse, hein, mais c'est une réalité.
Il nous a vu dans le pire, voilà. Dans la pire position.
Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on est, on est tel qu'on est, on triche pas, quoi. Donc ouais. Quand on a eu,
on se dénude un détresse, petit peu de notre, de voilà. Notre habit de citadin. Et...
Exactement. Quand t'es en détresse, ben tu triches pas. Et le,
il y a plus de masque.
Celui ou celle qui est avec toi, et ben te voit tel que t'es, et c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant.
En tout cas, on a envie d'y aller, hein. On a envie de te rejoindre.
On a envie de connaître nos vrais visages.
Est-ce qu'on est prêt pour la petite pause? Alors, ouais. Tu nous as préparé une petite pause
musicale. Grâce au chanteur Renaud, un homme à la mer.
Un homme qui prend la mer.
Un homme qui prend la mer.
On se retrouve après la pause pour continuer avec Joël. À tout de suite.
Merci.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. » Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Et Cavardi, Pajot, Kersauzon et Ridel navigue pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Merci Sidi, on se retrouve dans les studios Radio Galère avec Joël Paris, Florence et Mauril, moi-même, et nous parlons d'un rêve fou, un rêvé à perte de vue, un rêve imaginé par Joël qui est une traversée à la voile entre Marseille et Carthage avec un équipage de non-voyants, un rêve qui a pris naissance il y a 15 ans et qui est sous le point de se réaliser. Joël, tu nous expliquais avec passion comment ce rêve était a été créé et pourquoi à travers ce projet toutes les valeurs en fait que tu veux démontrer déjà que des non-voyants peuvent naviguer, mais ça va bien au-delà parce qu'il y a une notion de d'innovation dans laquelle on parlait. Il y a plein de choses, ça se résume pas juste à une traversée de la Méditerranée avec des handicaps. Je pense que c'est vraiment symbolique de
c'est votre drapeau finalement, mais je crois que c'est le sommet d'iceberg.
Moi, ça m'a touché, mais c'est symbolique dans le projet où ça montre la capacité à chacun à trouver des ressources pour aller au bout en fait de quelque chose et de vaincre les obstacles.
Je crois que si on veut changer les choses, il faut le faire par des exemples. L'exemple de Marseille-Carthage, c'est ça, c'est démontrer que c'est possible. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un équipage qui s'appelait Jolokia, il y a maintenant 5-6-7 ans. Un équipage de course au large recruté sur la diversité. Hommes, femmes, vieux, jeunes, handicapés, pas handicapés, jeunes, riches, jeunes, pauvres, peu importe, mais de raisons diverses. On avait tous en nous le fondamental qui était l'adhésion au projet et de faire avancer cette cause que je ne connaissais pas beaucoup, la diversité, c'était un mot qui pour moi était creux. Et je me suis rendu compte que ça pouvait marcher parce qu'on était sur un gros bateau de course qui avait fait une course importante il y a 12 ans. Et on a réussi, on était confronté à des équipages professionnels sur des gros bateaux, on a réussi à aller sur 18, on a réussi à être le 8e. Donc ça veut dire que ça marche, la diversité. Donc on a parlé d'innovation. L'exemple qu'on donne dans avec Jolokia, c'est de. On avait besoin d'avoir un entraînement à la sécurité en mer, donc on est parti voir la marine qui, tous les ans, teste les pilotes de chasse dans une piscine pour qu'ils apprennent à s'extraire dans leur avion s'ils se crachent en mer. D'accord. Donc nous, on est parti là-bas pour s'entraîner à la sécurité en mer, parce que si le bateau coule, comment on fait, quoi, avec un équipage, c'est essentiel.
Oui.
Et ce qui était assez dingue, c'est que rapidement, on ne savait plus très bien qui étaient les gens qui nous formaient et les formateurs et les formés. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, la marine partait d'un postulat qui était normal, hein, parce qu'ils n'avaient pas eu de contraintes, qu'un pilote de chasse ou d'hélicoptère, peu importe, quand ça se crache, ben, ça ne se blesse jamais. Et ben nous, dans notre équipage, on avait des blessés professionnels, en l'occurrence des handicapés. Et il y avait avec nous quelqu'un qui avait un problème aux mains, aux poignets. Et ce garçon-là, donc, il pouvait pas appuyer sur la life jacket. Vous savez, on a une combinaison, puis on a un harnais avec un baudrier sur lequel on doit appuyer pour
sauvetage.
Voilà, merci. Merci, c'est le terme anglais que je trouvais pas. Et donc, il fallait absolument appuyer sur cette life jacket après pour sortir, quoi. Et bien, lui, il n'y arrivait pas. Et donc, c'est une contrainte. Et la marine s'est dit, mais poisse, c'est un pilote, ça peut aussi se casser les mains.
Oui.
Et ouais. Donc,
c'est un
contrainte,
super exemple.
Je n'y avais pas pensé.
Ouais, parce que pas de contrainte.
Et oui.
Pas de contrainte. Et donc, comme il y a une contrainte qui était avec, en l'occurrence, avec nous, eh bien, ils ont dû innover, trouver un process, une procédure pour appuyer avec les paumes, je crois, pour enlever cette life jacket. Ça, c'est Eric Bellion qui l'explique très bien. Eric Bellion, c'était un éco-skipper qui maintenant a fait le Vendée Globe et qui se bat pour faire avancer la cause de la diversité. Et ça, il explique très bien ce truc-là. Et moi, j'y crois profondément. Donc, face à une contrainte, on n'a pas le choix. Il faut qu'on innove. Et donc, c'est pareil, moi, dans mon équipage, eh ben, on aura plein de contraintes et il faudra qu'on innove. Et plus globalement, après, l'idée, c'est de dire que ce qui se passe dans un bateau est transférable à terre en entreprise. Donc, embaucher les handicapés. Vous allez voir que vous allez devoir innover et donc être meilleur que vos concurrents. Voilà, c'est ça l'idée.
C'est ça l'idée. Alors, tu parles de diversité, hein, tu me diras, Florence, mais on parle souvent de diversité aujourd'hui. Ouais. On parle de diversité, on va dire... régionales et de différents pays, de différentes cultures. Mais on parle rarement de diversité, en fait, de handicap. Et ce ouais. que Florence mentionnait tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on les personnes handicapées en général, on en voit assez rarement. Et moi qui ai eu la chance de voyager dans d'autres pays d'Europe, notamment en Angleterre, c'est beaucoup plus fréquent, surtout dans des postes de travail. Mmh. Et on s'est posé la question... Y a-t-il une exception à la française par rapport au handicap ?
Je crois que oui. Je crois qu'on les, entre guillemets, on les cache. Alors, c'est un peu dur ce que je dis. Hein. Mais l'exemple, l'accès au travail, c'est super compliqué de travailler quand on est handicapé. Moi, j'ai du bol parce que je bosse depuis toujours. Mais ça demande un travail énorme que d'être recruté que de travailler quand on est handicapé. Et donc, c'est un vrai sujet. Genre, il y a plein de gens qui rêveraient de travailler. On n'en veut pas parce qu'ils sont handicapés, uniquement pour ça.
Et ce n'est pas par un manque de compétences.
Non.
Donc, il y a vraiment des barrières
psychologiques. À l'entrée et puis même à l'employabilité. À vrai dire, parce qu'un handicapé, ça peut, une fois qu'il travaille, il est comme tout le monde. Il a le droit d'être ambitieux. Et que c'est compliqué.
D'évoluer.
Et ouais, d'évoluer, de changer.
Et qu'est-ce que vous proposeriez pour améliorer les conditions de travail ? Pour qu'ils aient. C'est même pas les conditions de travail, c'est l'accès au travail.
L'acceptation, déjà, un, du travail, et puis deux, la possibilité de monter. Je crois que c'est compliqué et facile à la fois. Je pense que ce qui est très facile, c'est de changer les préjugés. C'est compliqué à la fois aussi. Mais je pense que c'est la seule façon. Que les choses bougent, c'est de changer les préjugés là-dessus.
Déjà,
c'est...
changer à l'école directement.
Exactement. À l'école, ça commence à aller un peu mieux, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants handicapés à l'école. Quoi.
C'est moi, ça, en tant que valide, classique, c'est le seul endroit où j'en ai rencontré, voilà, finalement. Exact. Parce que dans la vie active...
C'est compliqué, il n'y en a pas. Pas
en tout cas...
C'est très, très rare.
Ouais, voilà, à mon travail, il n'y en aura pas.
Alors, on voit l'handicap...
Est-ce qu'il y a un tabou tu parlais d'un problème sociétal dans la psychologie.
Bien sûr.
C'est un...
Parce que c'est emmerdant, entre guillemets, un handicapé. Ça veut travailler, ça veut faire les choses comme les autres. Mais il faut juste lui donner sa chance et vous allez voir que vous avez généralement plus quelqu'un qui est handicapé, il a plus la niaque que la moyenne des gens. Parce que comme il est tellement
ça,
merde.
C'est ça le côté l'argument. Qu'on ne voit pas finalement, que les employeurs n'ont pas. Le temps, quoi. Il se bat plus tout le temps et donc du coup il est moins susceptible de se plaindre.
Exactement. Déjà, il bosse, donc il est content de travailler, il se rend compte de la chance qu'il a eue. Donc, je pense qu'il. C'est même pas que je pense, je sais, pour le vivre quasiment tous les jours. C'est que on est plus efficace, ça serait présomptueux de dire ça, mais en tout cas, on a une employabilité qui est aussi bonne, en tout cas, que n'importe quel autre, quoi. C'est tout. Mais il y a une vraie. Il faut appeler un chat, ça s'appelle une discrimination.
Une discrimination, et ouais. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à partir du moment où un handicapé. Quel que soit son handicap, et considéré comme un employé normal, en fait, il y a tout de suite un ralliement, en fait, des autres
collègues. Généralement,
Et il y a un facteur de créativité, d'innovation, comme tu dis, finalement.
Tout à fait.
Donc, c'est paradoxal par rapport au fait qu'il y a un blocage.
Bah, on a du mal, par exemple, à admettre qu'un handicapé peut avoir une place de vendeur dans les restaurants, dans les magasins, dans les entreprises. C'est difficile pour un employeur que de dire « Tiens, mon vendeur, donc il sera face à ma clientèle, soit quelqu'un handicapé. » En tout cas, ce n'est pas admissible ou c'est compliqué à penser à ça. On a du mal à trouver. Regardez, je ne vois pas beaucoup d'handicapés qui sont vendeurs en magasin. Quoi. Alors que pourtant, voilà quoi. Ils y arrivent très bien. Quoi.
Ils y arrivent très bien. Et on le voit quand on visite d'autres pays d'Europe, en tout cas, où les handicapés ont peut-être plus de place. Où, je ne connais pas les freins et je ne m'aventurerai pas au niveau politique ou au niveau culturel. Mais en tout cas, quand on va à l'extérieur, on voit une différence. Donc c'est vrai qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Et peut-être que ce que vous êtes en train d'entreprendre, en tout cas, va...
Ça fait avancer.
Ça, pour moi, qui est important. L'exemple d'Eric Schitt, j'ai appris ça il y a 2 jours. Là. On a une jeune femme qui est dans mon entreprise, où je travaille, là, qui a des problèmes de marche. Elle a un problème de hanche, donc elle ne marche pas très bien. Elle marche en claudiquant. Quoi. Et je sais qu'on lui a refusé un poste, mais le patron lui dit clairement, non, vous n'aurez pas ce poste de chargé d'affaires parce que vous êtes face à la clientèle et je ne veux pas que les clients vous voient. C'est hallucinant. En 2017. Hein.
Donc ça, c'est 2017. Discrimination claire.
Oui, mais après, comment vous allez faire face à un employeur qui vous dit ça? Parce qu'il faut que vous mangez tous les jours. Donc vous devez, hélas, vous en parler. Mais c'est compliqué. Donc il y a encore un vrai travail. Moi, j'ai la chance de travailler, mais je fais même job depuis 15 ans, par exemple. Alors, c'est pas grave en tant que tel. Hein.
Mais t'as demandé.
Tous les ans, je demande à changer. Mais c'est pas pensable. Parce que je fais mon job. Donc pourquoi s'embêter à le faire changer de poste puisqu'il fait son job. Donc, c'est pas dramatique. Mais moi, j'aurais voulu faire plus. Mais c'est juste compliqué à expliquer. C'est pas grave, encore une fois. Mais c'est peut-être un gâchis. Je pense que mon job pour un homme qui suis malvoyant consiste à être devant un micro tout le temps, devant un micro-ordinateur toute la journée. Je pense que je pourrais être un peu meilleur ou utile ailleurs. L'exorant en contact clientèle, en contact et même en interne, mais c'est pas pensable. Le changement, c'est compliqué.
Même en essayant de créer des portes.
Et c'est moi, j'ai pas dû réussir. En tout cas, j'ai pas trouvé.
Non.
Mais on va y arriver. Hein. Mais l'exemple, là, donc pourquoi je fais ce projet-là, c'est aussi pour dire que c'est possible. Voilà.
Extra. Et comment vous allez faire? Vous parliez d'une pédagogie pour l'enfant. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette pédagogie? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place?
Alors, surtout, ce qu'on veut, c'est, une fois qu'on sera en partie, on va appeler toutes les 6 heures les gamins de l'IRSAM parce que leur dire où on en est et leur parler en direct.
Donc, l'IRSAM, tu disais, c'est l'Institut
Régional des Sourds et Aveugles de Marseille.
Qui sont notre partenaire. Il y a plus de 700 enfants.
Ouais, c'est ça. Voilà.
France.
Et donc, ce qui me paraît important, c'est que une fois qu'on part, on va aussi les tenir au courant régulièrement de l'avancée de notre traversée, quoi.
Donc dire on en est où. Là où vous êtes sur la carte, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Pour en avancer.
Exactement. Leur parler. Parce que si on part et puis qu'on ne dit rien pendant toute la traversée et puis qu'on arrive, ça, c'est sympa, hein, c'est clair. Mais moi, je veux qu'on parle en direct, quoi. On dise nos difficultés, nos avancées, nos joies, nos peines, qu'on leur fasse partager le projet de l'intérieur, quoi. Voilà.
Est-ce qu'ils vont vous poser des questions?
J'espère bien, oui.
Donc, il y a un lien de communication entre...
C'est aussi pour ça que je cherche un peu d'argent. C'est qu'on ait des moyens de communication qui soit un peu plus important que la moyenne et donc qu'on puisse se parler du large. Donc ça demande un moyen un peu important. Ça, quoi.
Satellite parce que
le
téléphone portable marche pas trop loin.
Non, ça marchera pas.
Il y a pas d'antenne au milieu de la mer.
Exact. Et puis la VHF classique, ça marche pas non plus, ça marche à 10 000 des côtes, ça dépend même des côtes. Donc là effectivement, il faudra qu'on puisse se parler avec des moyens plus sophistiqués que ce qu'on a l'habitude de voir, quoi.
Et comment c'était accueilli par les enfants de ce projet?
Je sais pas pour l'instant parce qu'en fait on a très peu communiqué avec eux.
D'accord.
Et je sais qu'on leur a parlé de ce projet-là. En fait, ce projet-là, comme il a été très long à démarrer, pour être, je vais être très clair, hein. Et ben en fait, j'ai pas voulu leur faire croire dès le début quelque chose. J'ai pas envie de mentir. Donc là maintenant que là ça approche et que là on a le bateau, l'équipage et qu'on va faire l'entraînement la semaine prochaine, là maintenant je vais pouvoir leur parler. Mmh. Mais avant j'ai le sentiment d'un peu de pipoter si je leur parlais du projet tous les jours, quoi. Parce que
pour
j'étais
eux,
un
ouais,
peu
c'est
dans
difficile
voilà.
De se projeter.
Donc, moi ce que je veux leur parler du projet quand il est dans le concret, okay, dans le ouais. dur, quoi. Là oui ça a du sens. Mais honnêtement, le projet ça fait 2 ans qu'on se bat là-dessus. On avait d'autres idées ambitieuses et puis on n'a pas forcément toujours réussi parce que c'est compliqué de faire avancer des projets comme ça. Mais maintenant, on y arrive. Donc maintenant qu'on y arrive, maintenant, oui, là, je veux en reparler. Oui, tout à fait.
Extrêmement bah, en attente du retour.
Oui, tout à fait.
Et peut-être même d'une émission au retour de Carthage.
Ah, ça serait un grand plaisir.
Comment vous allez faire pour ramener le bateau ? C'est un aller-retour ? C'est un aller simple ?
Non, on va faire un aller simple et après, je le ramènerai tranquillement. Parce que c'est compliqué de mobiliser l'équipage sur 8-10 jours, sur toute la durée. Donc, puis le retour est toujours plus compliqué parce que.
Là, ce sera le vent dans le nez. Là.
Exactement, voilà.
Ouais. Ça sera plus tranquille.
Ouais, donc, ça sera plus compliqué, plus long. Surtout, donc, je veux qu'il. Donc, on va partir en bateau par définition, avec un top départ, avec des chronomètres officiels parce que c'est un record qui va être homologué. Donc, il y aura des gens qui vont nous chronométrer. Donc, ça se paye. Et à l'arrivée, c'est pareil. Ils seront là pour nous chronométrer.
C'est bateau, on va une organisation internationale.
Ouais, tout à fait.
C'est
ouais,
ça.
Absolument, qui s'occupe des records en Méditerranée, enfin, pardon, en mer, partout. Et donc, c'est le World Sailing. J'ai plus de nom en tête, mais qui assume ces records-là, qui les chronomètre et qui les officialise.
Merci, ouais. Ouais.
Et puis après, on laissera le bateau. On va rentrer en France en avion, normalement. Et puis après, j'irai chercher le bateau tranquillement avec un. Plus tard, on verra ça plus tard.
Je vais le laisser tranquillement.
Là-bas. Ouais, voilà. On choisira des conditions.
Avec des escales, peut-être.
Ouais, peut-être, ouais. Ça. Plus clément, tout à l'heure, pour rentrer.
Voilà. Bon, si tu as besoin d'équipage, n'hésite
ouais,
pas.
Ok,
hein.
C'est gentil. Ouais.
Florence aussi.
C'est ça. Avec grand plaisir.
Ouais. Ça sera pas loin.
Je peux apprendre à barrer.
Ça sera avec grand plaisir.
Ouais. Eh ben, donc le budget est quasi, pas tout à fait bouclé, ouais. On en a parlé sur Litchi, ceux qui nous écoutent en tout cas, vous pouvez participer avec vos moyens, voilà, c'est
tout petit
les petites rivières qui font les grands ruisseaux, non, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, donc... 600 personnes qui donnent 5 euros, voilà, ça fait une différence.
C'est exactement. Pour un beau projet, une belle personne et un beau mouvement.
C'est pour faire avancer plein de choses, parce qu'à travers ce projet, voilà, c'est...
C'est l'emblème pour les aveugles de France et même du monde.
Les prochaines générations qui vont continuer à rêver. Et pour nous aussi, qui pensons être handicapés parce qu'on n'a pas... Et en fait, ça inspire tout le monde, ce projet. Voilà, donc participez, vous allez pouvoir faire avancer la cause peut-être du handicap, et peut-être qu'on aura la chance à travers ce projet que notre président prenne des décisions fortes pour que les personnes handicapées puissent accéder à l'emploi, à des postes de responsabilité, puissent réaliser leurs rêves de façon différente. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière en tout cas ce projet. Donc c'est sur rêveaperte de vue.fr sur le site. Le lien est directement Litchi est directement sur le site.
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Ouais, c'est le vous tapez tout simplement effectivement tout attaché rêveaperte de vue.fr et là on explique un peu le projet et puis il y a aussi le lien sur la cagnotte Litchi. Après si vous tapez Marseille Carthage casser les préjugés sur le handicap, ça marche aussi. Hein. Mais effectivement, il y a le lien avec le site rêveaperte de vue.fr. Encore une fois, j'ai plein de questions de gens qui me disent « Ouais, mais je ne peux pas donner beaucoup. » Mais encore une fois, vous donnez 10 euros, 15 euros, enfin, voilà, 20 euros, mais c'est génial parce que déjà, moi, à chaque fois qu'on voit ça, ça nous donne de la patate, quoi, j'allais dire. Parce que ça nous donne... On nous dit « Tiens, il y a encore des gens qui croient à notre projet, qui pensent que ça a du sens et ça nous porte. » Ça, c'est le premier point. Puis j'allais dire, on est, comme on le disait très bien Maurice, on est 600 à donner 20 euros. C'est bon, le budget est bouclé, quoi. Donc, vraiment...
Donner pour une bonne cause.
Donner, enfin, après, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de demander ça. Mais parce que j'ai déjà un partenaire qui a donné 10 000 euros.
Mais nous, on le demande. Vous pouvez donner...
Oui.
Pour jouer par un
on est sans gêne.
Mais c'est vrai que ça nous... Parce que nerf de la guerre, c'est clair, il ne faut pas se le cacher, c'est l'argent. Hein. S'il n'y a pas d'argent, on aura du mal à partir parce que ça coûte, hélas, forcément un peu de sous. Quoi.
Donc, ouais. À travers ce budget, bon, le bateau est là, mais c'est, tu disais, c'est les équipements spécifiques le bateau, de sécurité.
Ouais, parce que le bateau, pour l'instant, il marche très bien, mais il n'est pas équipé, il est pour aller au grand large. Il est équipé pour faire pour faire au Frioul. Il est très bien pour le Frioul. Mais pour aller au large, donc je dis ça en rigolant, mais il faut aller plus loin. Quoi.
Au large, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où on ne voit plus la terre.
Voilà.
donc il y a besoin de se repérer. Il y a besoin d'avoir des équipements de sécurité. C'est voilà, ça. Forcément.
Ouais. La Tunisie, c'est un peu plus loin que
Frioul. C'est un peu plus loin que Frioul.
C'est combien de kilomètres
En fait, il y a 480 000, c'est à peu près 800 kilomètres.
Marseille-Paris, à peu près.
Exactement.
Marseille-Paris, à la
fois. Voilà, et ça.
Du coup, il y a quoi à rajouter? Je ne sais pas qu'un bateau pouvait se perfectionner à ce point, parce que là, d'un bateau au Frioul jusqu'à la Tunisie.
Non, en fait, c'est. Le sujet, en fait, c'est que ce bateau, il a un grand cockpit très large. Et donc, il faut qu'on puisse trouver une solution que j'ai en tête pour fermer, parce que forcément, on se prend les vagues. Et donc, s'il y a une grosse vague, il ne faut pas que l'eau rentre dans le bateau. C'est mieux pour le bateau. Donc, il faut qu'on ait un équipement qui n'est pas très compliqué à mettre en place, mais qu'il faut qu'on installe pour que l'eau ne rentre pas. Puis, il faut qu'on ait des instruments dignes de ce nom. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'instruments, ou très peu. Mais il faut que j'ai une vraie radio déjà pour communiquer.
Ouais.
On appelle ça un transpondeur météo. C'est qu'il faut qu'on ait la météo en direct pour aller pile poil là où on veut avoir le vent le plus important ou le mieux pour nous par rapport à l'angle du bateau. Et puis il faut qu'on ait un peu d'équipement de sécurité. Alors, le bateau est équipé pour ça, mais il faut qu'on ait de bons équipements de sécurité pour qu'on parte en sécurité. Voilà. Il faut que chaque équipier ait un équipement, un harnais digne de ce nom, etc., etc. Il y a plein de choses mis bout à bout qui font que ça demande un peu de sous. Ce n'est pas beaucoup. Le budget global, c'est 25 000 euros.
Oui, pour un bateau, ce n'est pas énorme.
Voilà, mais nous, on a déjà 10 000 euros donnés par une ADEV. Donc, il nous manque 15 000. Voilà, le sujet là.
Alors, ce n'est pas un bateau de croisière.
Non, il n'y a rien dedans. On va tout enlever. Ce
n'est pas comme les bateaux que vous voyez.
Non, il n'y a rien dedans.
Les salons et tout ça.
Voilà, vous aurez les photos. Il n'y a rien dedans. On va encore plus tout enlever. Je vais enlever les planchers pour gagner 10, 20, 30 kilos. Je vais enlever tout ce qu'il y a. Je vais enlever la chaîne de l'encre. Je vais enlever tout pour qu'il y ait, d'abord qu'on soit en condition de course psychologiquement.
Mmh.
Et puis deuxièmement, qu'on soit le plus léger possible. Quoi.
Mmh.
Donc il y aura juste un matelas par terre pour se réveiller, pour dormir. Et c'est tout.
C'est tout. pour ceux qui vont participer, en tout cas, est-ce qu'il y a moyen de voir le bateau avant le départ, de vous... parce que c'est vrai que tu disais qu'il y aura une fenêtre de quelques jours pour attendre les meilleures conditions météo, mais est-ce que avant ou après, ce sera possible de...
Ça sera un grand plaisir. Ouais. En fait, le bateau, il est amarré au Vieux-Port, à Marseille. On va même avoir une grande bâche du côté du quai de Rive-Neuve, là où est mon club de pêcheurs, là où il y a le bateau, où on va parler du projet. Et vous pourrez passer devant, vous pourrez regarder un peu. Le bateau, c'est un bateau jaune qui sera au bout du ponton. Et si vous êtes 500, je ne pourrais pas le faire parce que ce sera compliqué pour moi. Mais si vous êtes quelques-uns de temps en temps qui passez et que je suis là, moi, je serais heureux d'aller vous montrer le bateau.
Ça sera mieux.
Effectivement, je pourrais pas. Si vous êtes 500 à faire la queue, je ne pourrais pas. C'est physiquement impossible.
Et puis, il faudra club, organiser voilà. Une journée.
Mais, ouais.
Porte ouverte.
Mais on s'arrangera. En tout cas, moi, le bateau, on essaiera de vous le montrer le mieux possible. Et puis, et puis d'en parler, même ici, de revenir avec vous. Il en parlait du large.
Ah ben, avec plaisir. Ouais, retour.
Un retour de Carthage.
Ouais,
retour de Carthage pour faire.
Et même en direct, si vous voulez.
Recueillir les impressions. Ah, en direct, on vient.
À distance, là, ça commence.
S'il y a une radio, c'est possible.
S'il y a une radio sur Carthage. Oui, il y a bien une radio. C'est un projet un peu fou, mais on aime bien les projets fous.
Tu sais ce qu'on peut faire, on te met sur le bateau.
On emmène Florence.
On emmène Florence.
Bon, je serais moins efficace que l'équipage, mais tout s'apprend.
Exactement.
Tout s'apprend.
Et voilà. Une contrainte, innovation.
Exactement. Merci.
Eh bien, on a fait le tour, en tout cas, de l'heure. On a fait peut-être pas le tour du sujet, mais en tout cas, on est impatients d'apprendre le départ et de vous suivre, en tout cas, sur les réseaux sociaux ou sur votre site. Joël, je ne sais pas si tu voulais ajouter un mot de la fin. On arrive à la fin de cette émission.
Non, c'est un énorme merci déjà à vous d'avoir reçu, d'avoir pu m'écouter. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir essayé de comprendre ce projet un peu fou et j'ai besoin du soutien de tout le monde. Je ne parle même pas financièrement, c'est que même sur Facebook, sur la page Rêve à perdre de vous me dites j'aime et moi pour nous c'est génial quoi. Ça nous donne un peu d'envie de continuer. On a toujours envie de continuer, mais encore plus envie de continuer, j'allais dire, bien sûr.
Alors, faites votre part du colibri, soutenez ce projet pour changer le monde. Et félicitations à vous. Merci Joël. Bon courage. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à tout l'équipage, parce que vous êtes quatre.
Ouais.
Et on espère en tout cas entendre parler de vous très bientôt.
Et merci Mauril pour cette émission.
Merci Florence. Merci Cédric pour la technique. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà.
Pour une nouvelle émission. Gardez vos rêves.
Merci
gardez vos
vous.
Rêves. Au revoir.
Au revoir.
Super.